Ça me fait revenir justement à la phrase de Steve Jobs sur la bicyclette pour l'esprit. Quand tu penses bicyclette, en termes de métaphore, tu penses moyen de transport individuel quand même. Comment tu traduirais ça, toi, en termes technologie domestique au service de la localité? Je ne sais pas si c'est la bonne métaphore aussi dans le bon contexte, hein. Je pense que je suis un peu loin du.
Si, 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 mais ces derniers temps, je cherche un mot. Les Néerlandais, ils ont deux mots pour. En fait, ils font la différence entre la personne qui prend son vélo pour le sport et la personne qui prend son vélo pour se déplacer dans le quotidien. Et je cherche un mot. En français, on utilise le mot cycliste pour les deux. Et en ce moment, j'utilise beaucoup le mot cyclomobiliste. Je fais la différence entre cycliste, qui est le sportif, et le cyclomobiliste, qui est celui qui se déplace avec son vélo. J'ai été cycliste quand j'étais adolescent et jeune adulte. Je suis maintenant cyclomobiliste.
Les plus piétons, quoi, c'est ouais, c'est ça.
Oui, voilà, comme un pédimobiliste, comme un piéton. Mais ce qui est marrant, c'est que dans les deux cas, effectivement, c'est une pratique individuelle, mais on a tendance à dire que le cyclisme, c'est un sport individuel qui se fait en groupe. Il se trouve qu'au moment où on enregistre, il y a le Tour de France. Magnifique étape aujourd'hui. Voilà, il y a un peloton, et le maillot jaune, il est maillot jaune que parce qu'il a une équipe qui est capable de l'emmener jusqu'au sommet, et ensuite il fait le reste. Donc il y a quand même un collectif au service de l'individu, où l'individu parfois se sacrifie au nom du collectif, des choses comme ça. Et c'est pareil dans le cyclomobilisme, quoi, dans le déplacement quotidien. C'est sympa d'être tout seul à 6 h du matin dans Lyon, je t'assure.
Oui, j'imagine.
Mais c'est aussi très plaisant quand tu es sur les berges du Rhône, en file indienne, qu'il y a 20 vélos devant toi, 20 vélos derrière toi, et il y a un côté. Parfois je me dis, c'est comme ça que les poissons. Évoluent quand ils sont en banc.
Ah, je pensais aux canards qui volent, tu sais, en V. Les oies, pardon.
Tu le fais sans même y penser, quoi. Tu
Ouais,
sais
ouais.
instinctivement, tu sais quand est-ce qu'il faut freiner, quand est-ce qu'il faut remettre un coup de pédale.
Ouais.
Tu finis par t'adapter à, tiens, la personne devant moi, elle est moins assurée, elle a un vélove, elle a tendance un peu à pas tenir sa ligne, à aller à gauche, à aller à droite, à tortiller un peu du cul.
Manuel Valls. Pardon.
Ou au contraire, à bien tenir sa ligne et à t'emmener, t'es dans son sillage et il faut vraiment la suivre et c'est elle qui te permet d'accélérer. En plus, avec mon vélo qui pèse le poids d'un âne mort, c'est vraiment utile, ce genre de personne. Et il y a un côté, tu y penses. Enfin, ouais, tu le fais sans y penser, quoi. Et c'est très agréable. Ça devient presque zen, quoi. T'es presque découplé de. Tes jambes font un truc, ton corps fait un truc. Et toi, t'es plus là, quoi. T'es en train de, tu peux vraiment penser à autre chose.
Oui, je comprends, tu es dans l'état parfait où le corps fait ce qu'il a à faire et avec son propre cerveau et toi tu es libre pendant ce temps-là.
Ouais.
Ça, c'est génial, ça. Ouais.
Et c'est incroyablement plaisant. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à ça dans la domotique. C'est-à-dire qu'actuellement, on est dans le cas où on est dans le sport individuel, quoi. Il faut que tu penses à ta trajectoire, il faut que. Enfin, le tennis. Il faut que tu sois sur la balle à tout instant, et il faut pas que tu la lâches des yeux. Il faut qu'en même temps tu penses au placement de tes pieds, et que là c'est du gazon, là c'est de la terre battue, c'est ceci, c'est cela. Et il faut qu'on arrive au stade où non, où c'est presque en pilotage automatique, et où ça devient très, très réactif, et où tu es capable justement de découpler les deux. Et ça devient un truc, oui, complètement. Enfin, comme l'oxygène que tu respires, quoi. On n'a pas besoin de penser à reprendre notre respiration, quoi.
En tout cas, pas dans les conditions normales, mais c'est vrai. Oui. En fait, ça me fait penser que tout ça, c'est vraiment du flan au final, parce que on nous promet depuis si longtemps que la technologie va nous libérer du temps et du loisir, et ça nous ajoute juste des soucis, des dépenses, en fait.
Et on devient opérateur de machine. Enfin, je l'ai déjà
Ouais.
dit dans ce podcast. On nous a donné de nouvelles obligations. On est putain d'opérateur de putain de machine. C'est pas ma passion, quoi. J'aime bien la techno, enfin, j'en ai fait mon métier quand même, mais c'est pas ma passion d'appuyer sur des boutons au quotidien, quoi. Mais malheureusement, on n'est pas dans le cas où je peux faire autrement, où les boutons peuvent s'appuyer tout seuls. Et à cause de deux extrêmes, parce qu'on a connecté des choses qui n'ont pas besoin d'être connectées, et parce que les choses qui sont connectées ne sont pas intelligentes, ne sont pas assez intelligentes. Encore une fois, il y a cette confusion entre intelligence et connexion, quoi.
Et même, enfin, confusion, voire mensonge quand même, parce que le terme smart n'a jamais été aussi usurpé, quoi.
Oui,
C'est...
complètement. À la fin, certains systèmes d'ampoule, quand le réseau Internet tombe, ne puissent plus communiquer entre eux alors que c'est un réseau mesh et tu puisses plus allumer tes ampoules. Non, c'est pas smart, c'est complètement con.
C'est complètement con. Mais le tour que prend notre discussion m'ennuie beaucoup parce qu'on devient très critique et un peu encore plus vieux qu'on ne l'est.
Mais il faut.
Et il faut, mais...
Je crois que la technocritique, c'est utile et qu'il faut faire de la bonne technocritique.
Ouais.
Il ne faut pas être technocritique en mode les abrutis, là, qui disent « laissez pas les enfants devant leurs écrans », alors ce qui est vrai pour les tout-petits, hein, mais...
Non, bien sûr.
Vous êtes en train de fabriquer une génération de couillons et tout ça, alors que non, on est en train de leur donner des outils pour aller beaucoup plus loin qu'on est allé, et c'est tant mieux. Il faut pas être techno-béa non plus, quoi. Tout ce qui est plus technologique et tout ce qui est plus connecté, c'est forcément mieux. Je crois qu'il faut faire de la technocritique et de la bonne technocritique, de la technocritique intelligente. Et je crois que notre mission en tant que geek, en tant que gens qui aiment la technologie, c'est d'être presque plus technocritique que les pires technocritiques. Parce que moi, en tout cas, je veux que la technologie devienne meilleure. Et je pense pas qu'elle puisse devenir meilleure sans une bonne technocritique. Et meilleure, alors meilleure, c'est un mot faible, hein, mais plus juste, plus fiable, plus intelligente, plus libératrice, plus démocratique, avec plus d'effets sociaux. Enfin, tu peux comme ça continuer la conversation pendant 20 minutes. Tu utiliseras d'autres adjectifs parce que t'es un mec de droite.
Je pensais à vote électronique quand tu m'as dit démocratique, tu vois. Je me suis dit...
Voilà, alors que non.
Non, t'inquiète pas, je suis contre aussi. Je crois qu'on est d'accord sur le vote électronique, en vrai.
Mais non, je crois qu'il ne faut pas avoir peur des technocritiques, au contraire.
Et même au contraire, peut-être encore plus, je te rejoins sur la responsabilité, parce que les personnes qui sont réfractaires ou qui subissent, en fait, même carrément, qui sont victimes de la technologie, ont besoin d'être représentées aussi.
Ouais.
C'est quelque chose que... Enfin, tu vois, quand je vois ma mère se débattre sur avec iCloud et que ça ne marche pas sur X photos, enfin, que ça, tout se mélange comme ça... Enfin, c'est dur, quoi. Ça me fait souffrir pour elle, dans un sens.
Mais c'est là qu'on voit qu'en fait, on a un podcast politique et pas techno. C'est la différence entre égalité et équité.
Ouais. Ouais.
C'est-à-dire que la technologie, ça ne doit pas être la grande égalisatrice. Au contraire. Ça doit être très inégal.
Oui. Très humain, au final. Ouais.
Parce que le but, c'est... Au contraire, c'est justement de pouvoir se faufiler dans les inégalités, de ramener les gens au niveau des autres, et au final d'avoir un socle technologique très équitable et d'être capable de ramener tout le monde au même niveau. Et donc oui, il faut presque beaucoup plus aider quelqu'un comme ta mère, ou comme la mienne, hein, parce que ça marche avec la mienne aussi, qui sont un peu paniqués face aux techno, plutôt qu'à moi, quoi. Moi, j'ai pas besoin que... Enfin, ça va, quoi. Puis quand j'ai un pépin, je peux utiliser le terminal, quoi. Enfin, c'est bon, quoi. J'ai pas besoin de... Donc c'est pas à moi qu'il faut rendre service, quoi.
Mais là, je reviens là-dessus, c'est que ça devient... Enfin, de fait, c'est affaire de spécialiste, pour l'instant en tout cas. Et j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose d'inscrit dans l'ADN de la technologie telle qu'elle est aujourd'hui. Quelque chose de très profond, quoi. Encore une fois, je vois aucune initiative dans l'autre sens. Mais peut-être que j'ai une vision... Enfin, j'ai sans doute même une vision très, très étroite sur le sujet. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que pour l'instant, le présent et le futur de la technologie est aux mains de boîtes quand même privées, avec des intérêts du coup privés. Et
qui sont toutes de la même culture.
Qui sont toutes de la même culture, absolument. Et qui, en fait, qui, au final, même si elles ont des différences philosophiques sur certaines finalités, sur le principe d'utiliser la technologie de cette manière, se retrouvent toutes.
Moi, ce qui m'atterre toujours, c'est que quand on se met devant un ordinateur... On utilise une métaphore qui a été conçue dans les années 80.
Ouais.
Donc on a une métaphore devant qui a 40 ans, la métaphore du bureau, qui à mon avis est dépassable. C'est-à-dire que cette idée que l'ordinateur, ça doit être un fac-similé d'un bureau rêvé qui n'a jamais été le bureau tel qu'il a été organisé dans aucune entreprise, à mon avis, cette idée est dépassable. Et pourtant, non seulement il n'y a aucune prétention de refondre la métaphore du bureau, mais sur des systèmes qui auraient pu remettre ça en cause, typiquement l'iPhone et l'iPad, on y revient.
Oui, c'est vrai.
Notamment l'iPad, quoi. C'est presque déprimant, quoi. On est en train de déconstruire tout ce qui faisait de l'originalité de l'iPad, et on revient on va avoir des fenêtres qui flottent au-dessus de ce qui est de facto un bureau.
Il y a un trackpad.
On a une application fichier. On range les fichiers dans des dossiers parce que mais qui fait ça chez lui, quoi. Qui range vraiment des fichiers dans des dossiers, quoi. Enfin, je veux dire, c'est efficace tout ça, mais encore une fois, je crois que c'est dépassable. On met pas d'argent, on met pas d'énergie là-dedans, on préfère en mettre dans le bitcoin et l'arnaque des crypto-monnaies qui ne font rien par dépenser de l'énergie et puis c'est tout. Dans l'intelligence artificielle qui n'a rien d'intelligente et rien d'artificiel, puisqu'en fait, dans la plupart des cas, c'est des tâcherons du clic qui les opèrent. Et on résout au final aucun vrai problème profond de l'informatique au quotidien et de l'informatique que les gens utilisent, quoi. Parfois, c'est un peu... je sais pas, frustrant, déprimant, enfin, je sais pas quel mot faut employer, mais ouais.
C'est une ébauche de début de changement. Et je pèse vraiment mes mots déjà très légers parce que je suis pas certain que ce soit ça. Mais le fait que Siri, par exemple, exécute certaines tâches en local maintenant, enfin, ou bientôt, quoi. Est-ce que tu vois pas par là, bon, même s'il y a toujours les problèmes d'activation par la voix, et du coup, ces problèmes, notamment d'accent, on en parlait, est-ce que tu y a pas une insensible rotation vers quelque chose d'un peu plus humain, justement?
J'espère que sous couvert d'être le héros de la vie privée, et donc on fait pas du cloud, on revient au local quelque part. C'est marrant, c'est des mouvements de balancier. On a eu l'extrême de on fait tout en local et Internet c'est un truc très distant. On est revenu au mainframe client léger avec le cloud. Peut-être qu'on va voir peut-être qu'on va réussir au fur et à mesure des mouvements de balancier d'arriver à un juste milieu. Mais oui, j'espère. J'espère que sous couvert oui, de cette défense de la vie privée, donc on fait du traitement local, on va se remettre à traiter du fichier local, à traiter de la donnée locale. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des appareils, que ce soit l'iPhone ou l'Apple Watch ou les AirPods, qui ont énormément de capteurs, qui collectent énormément de données et on n'en fait rien. C'est ma grande critique de l'Apple Watch. C'est super qu'elle collecte tout ce qu'elle collecte, mais elle n'en fait rien, quoi. Et je veux dire, avoir une alerte de temps en temps, ah, au fait, ton cœur, il bat à 43 pulsations par minute, peut-être que c'est un peu bas pour un gaillard grand comme toi. Oui, d'accord, mais enfin, et ouais. Et peut-être, enfin, ce que j'espère, hein, encore une fois, j'ai tendance à être optimiste. J'espère qu'à force, on en vienne à s'intéresser à cette masse de data qu'on a accumulée en local et qu'on va en faire quelque chose. Et qu'on va le faire de manière très... très situé, quoi. À l'échelle du corps. À l'échelle de deux corps, quand on parle d'un couple, ou de quatre ou cinq corps, quand on parle d'une famille. Qu'on puisse toujours pas, en 2021, partager des photos en famille dans la bibliothèque photo. Pourquoi ? C'est pas un problème d'informatique très compliqué. Même moi, pour le coup, je suis capable de le faire. Donc merde, quoi. Mais ça te montre quelque chose, hein. On a du mal à concevoir l'informatique immédiate,
ouais,
autour de 4 ou 5 personnes. Par contre, faire une technostructure avec des millions de serveurs dans 25 data centers, ça on sait faire. C'est quand même fou, quoi. Donc oui.
Mais je pense qu'on touche là un paradoxe un peu peut-être un peu redondant de la technologie, mais qui est aussi, je crois que c'est la même nature de paradoxe qu'il y a par exemple avec l'hyperconnexion, comme on dit dans les journaux informés, avec les réseaux sociaux, ce genre de choses, où on parle beaucoup à l'extérieur et on parle très peu au final, au moins, au tissu local. C'est un de ces paradoxes-là, à mon avis.
Ce qui est fou, parce que quand les réseaux sociaux sont arrivés, on t'expliquait que ça va être une révolution de la presse régionale.
C'est vrai.
On va pouvoir réinventer le journal local, on va pouvoir avoir des micro-rédactions avec 4 ou 5 personnes qui n'ont même pas besoin d'avoir des moyens énormes. Donc le souci, hein, qui est dans un petit patelin, c'est difficile de faire un canard parce que il faut avoir des bureaux, il faut avoir la presse, il faut avoir ceci, il faut avoir cela. Bah non, là, on peut le faire de manière entièrement numérique. Et on se rend compte qu'en fait, non, les gens, ils passent leur temps à parler de choses nationales, internationales et de choses qui sont dans leur tête, qui n'existent que dans leur tête, dans le cas des complotistes et des antivax et des anti-ceci et des pro-cela. Et finalement, ils ne parlent pas de leur environnement. Ils ne parlent pas de ce qu'ils voient, ils ne parlent pas de ce qui est autour d'eux. Ou sinon, ils parlent que de ce qui est en dessous de leur nez, quoi. Ce que j'ai mangé, ce que j'ai acheté, et ce que j'ai entendu, ou ce que j'ai dit, ou ce que je crois. Alors qu'on a des appareils qui nous permettent de filmer et de photographier notre environnement, ces appareils, au lieu d'être des fenêtres vers notre environnement, sont devenus des murs. Je trouve ça vraiment surprenant, hein, parce que j'y croyais. Hein. c'est peut-être mon côté optimiste là, qui, pour le coup, m'a tué, mais j'y croyais. Hein. Je suis incroyablement surpris, alors qu'on n'a jamais pris autant de photos, que finalement ces photos en disent, en ont jamais dit aussi peu.
Je sais pas quoi répondre. Non, c'est un peu triste, c'est sûr. Je pense que peut-être que l'astuce était déjà dans le mot écran, tu vois, déjà de base. Au final, c'est une barrière. Non, en vrai, plus sérieusement,
mais c'est marrant parce que écran et l'autre mot c'est moniteur.
Oh, c'est vrai.
Dans les deux cas, tu as c'est finalement c'est la dalle qui te regarde, c'est pas toi qui regarde la dalle. C'est marrant. Hein.
C'est ça qui me fait douter d'une possible, je vais parler en termes en termes religieux encore une fois, d'une possible rédemption technologique. Je pense pas que ce soit possible, tu vois. Enfin, je pense que la nature est faite de telle manière que on va toujours essayer de reconstruire la tour de Babel, tu vois. On va toujours essayer de recommuniquer avec avec la version, la meilleure version de nous-mêmes, tu vois, ou voir avec Dieu. Enfin bon, c'est peut-être parfois la seule et même chose selon certaines personnes. Quoi qu'il arrive, tu vois, c'est toujours voué à l'échec en fait, parce que parce que c'est comme ça. Il y a sûrement plein de raisons.
C'est là, sans vouloir surjouer nos différences politiques, c'est là où tu fais voir ton conservatisme. Mais d'ailleurs, c'est marrant, hein, parce que c'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Moi, c'est la question qui m'intéresse. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est pas autrement?
Ouais.
Et je crois que c'est pas autrement parce que les structures économiques sont faites de telle manière que c'est comme ça. Quand t'es Twitter, le réseau ultra-local avec 15 personnes, ça t'intéresse pas. pour faire du fric, il faut que t'aies des milliards d'utilisateurs. Et je crois que la parade, c'est de trouver des systèmes. Alors, je sais pas si c'est open source ou pas open source, parce que je sois pas sûr. L'open source rend ça plus simple, mais je suis pas sûr qu'il soit nécessaire à mon hypothèse, mais... On peut faire des choses qui sont beaucoup plus décentralisées, qui sont beaucoup plus petites, quoi, avec des systèmes. Je crois qu'il faut repartir de l'échelle de l'individu et de son réseau immédiat. Il faut être capable de reconcevoir la taille des mailles. C'est-à-dire, voilà, il y a l'individu, moi et ma famille,
ouais.
Moi et mon quartier. Ou ma communauté, voilà, ma communauté religieuse, ma communauté politique, ma communauté ceci, enfin mon entreprise, ceci, cela. Tout ceci dans le système politique qu'est l'État-nation. Tout ceci dans l'espace culturel et l'espace économique qu'est le monde. Il y a des choses à réinventer là-dessus. Mais le souci, c'est que cette expérimentation-là et ces formes de structures-là, elles sont incompatibles avec la manière dont le capital risque aujourd'hui fonctionne. Donc, à partir de là...
Oui, je pense qu'on est d'accord là-dessus, c'est certain que c'est pas...
Ouais. Mais les réseaux qui fonctionnent le mieux, qui ont le moins de soucis de modération, qui ont le moins de soucis de complotisme et de choses comme ça, c'est les réseaux qui sont des fédérations petites communautés, typiquement Reddit et Pinterest, qui sont les deux seuls réseaux sociaux que j'arrive à consulter, sans une boîte d'antidépresseurs à portée de main. Et c'est pas uniquement de la culture de l'entre-soi, parce que oui, Reddit, tu peux être uniquement dans le subreddit des claviers mécaniques si t'as envie, mais...
Oui, bien sûr.
C'est pas que ça. Et puis derrière, t'as toute l'épaisseur du flux public, quoi. Donc tu peux avoir les deux échelles qui se répondent, quoi. Et d'ailleurs, c'est marrant, parce que les mêmes que tu vas voir dans le flux public, même si tu suis pas le flux public, tu vas finir par les voir dans ton subreddit, et donc la culture globale influe sur la culture locale, la culture locale influe sur la culture globale. C'est pour ça que ces réseaux-là m'intéressent beaucoup. Et je crois qu'il y a des choses à faire là-dessus.
Oui, c'est vrai que c'est intéressant. Il y a une influence, on va dire, un peu comme le corps océanique et les différentes plages, quoi. On va dire, quelque chose peut s'échouer. Oui, c'est intéressant. Et en même temps, alimente le une sorte de réseau, et après, effectivement, chacun adapte à sa sauce.
Oui, à la fin, peu importe la plage du monde sur laquelle t'es, c'est la même eau, quoi.
Oui, c'est intéressant, ça. Mais tu vois, enfin, ce que je me demandais, c'est, pendant que tu évoquais ce système-là, c'est, est-ce que, justement, on n'a pas besoin d'adapter technologiquement un modèle de fonctionnement qu'on avait auparavant, qu'on a perdu? Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, enfin, bon, voilà, le capitalisme n'est pas non plus... n'a pas toujours été là. Et est-ce que...
Toi, t'as envie de lire L'Enracinement de Simone Veil comme un pamphlet pour une nouvelle structure numérique?
Ça me tenterait pas mal, ouais.
Et c'est là où on se retrouve.
Non, parce que je pense que, comme l'Ecclésiaste le dit, tu vois, je pense qu'il n'y a rien de fondamentalement nouveau sous le soleil. Adapter la technologie... Donc, enfin oui, la technologie est sur ce modèle-là aujourd'hui parce qu'elle est dans ce monde-là, parce qu'elle est sur cette structure-là qui en fait un agent, on va dire, négatif, je parle un peu caricaturalement, mais voilà, parce que le profit, parce que ceci, parce que cela, parce que l'oppression, parce que voilà. Et si... enfin, le monde a déjà été gouverné plus localement, quoi. La France notamment, mais enfin, voilà, on n'a pas toujours eu cet état omnipotent, ou en tout cas avec des prétentions d'omnipotence. Et si on retrouve... où on se rapproche de ces modes de fonctionnement-là et qu'on y intègre, qu'on y superpose la technologie, est-ce que ce serait différent? Et dans ce cas-là, comment? Là, ce serait intéressant. Hein.
Je suis d'accord avec toi là-dessus. Où il n'y a pas de. Y a... À mon avis, il n'y a pas de solution technologique. C'est un problème politique.
Oui, ah, tout à fait, oui, je suis d'accord avec toi. Enfin, la technologie est humaine, quoi. C'est fondamentalement qu'une émanation.
Oui, ça n'est qu'un simple reflet de nos organisations. Ouais.
Exactement, ouais. En tant qu'outil, quoi. Ouais.
Et c'est là où finalement, à la fin, toi et moi, enfin, on est d'accord sur le constat, on n'est pas d'accord sur les solutions. Parce qu'on n'a pas tout à fait la même conception de quelle est l'échelle la plus pertinente, par exemple, dans une organisation territoriale. Mais à mon avis, c'est une grande partie de la solution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un système complètement globalisé. Et donc, oui, quand tu débarques sur Twitter, évidemment que tu parles. C'est presque plus évident d'aller parler à ce qui se, de penser ce qui se passe à l'autre bout du monde plutôt que de se penser où ce qu'il y a vraiment sous ton nez. Le rapport à l'assiette, quoi. Moi, c'est vraiment le truc qui me fascine dans le réseau social. Mais finalement, ce qui est entre les deux, ce que tu vois par ta fenêtre, au loin, pas seulement dans ta rue, mais au loin, et penser à comment les gens à l'autre bout de la ville pensent leur environnement, ça, c'est difficile. Mais parce que nos structures sociales, de manière très au sens politique et au sens sociologique du terme, sont pas faites pour.
Oui, c'est ça, je pense que c'est plus fort que ta volonté propre en fait. C'est un environnement, c'est une ambiance, c'est un courant. Si on peut reprendre la métaphore de l'océan, tu peux pas, enfin, c'est très difficile de pas se laisser entraîner par ça, quoi, je pense. L'outil est conçu de telle sorte que tu es plus ou moins forcé de, bah voilà, rester dessus parce que tu clashes avec des gens, parce que c'est des propos extrêmes à chaque fois, parce que c'est outrageux à chaque fois, et voilà, c'est comme ça qu'on fait de l'audience.
En ce moment, il y a un film qu'on a produit avec Reporters Solidaires, qui est une association de journalistes dont je suis membre, et un film auquel j'ai participé de manière très, très, très anecdotique pour quelques plans et quelques idées, mais donc un journaliste guinéen qui est parmi nous, qui s'appelle Amadi Cherif Ba, qui est l'auteur de ce documentaire. C'est un documentaire sur les migrants guinéens à Lyon. Donc ça, et donc non seulement il a interrogé les Guinéens à Lyon, mais il est reparti en Guinée pour interroger soit ceux qui veulent partir, soit ceux qui sont revenus. Et j'ai discuté avec lui de la Méditerranée, qui est justement ce corps d'eau que les migrants guinéens doivent passer pour aller en Europe. Et je lui disais, c'est marrant parce que toi, venant de Guinée, tu vois la Méditerranée comme ce mur et comme ce mur sur lequel les migrants guinéens se cassent les dents et meurent. Et moi, venant du Nord, là, je prends mon train, je descends de Lyon, je vais jusqu'au bord de la mer. Je vois ça comme une passerelle qui nous ouvre vers l'Afrique, tu vois, avec toute ma connaissance historique et tout ça. Et finalement, eux voient ça comme le truc dans lequel potentiellement ils vont se noyer et mourir. Et moi, je vois ça comme le cours d'eau dans lequel je vais aller me rafraîchir et aller patauger. Et ce qui est marrant, c'est qu'à la fin, c'est de la flotte.
Pas si bonne que ça d'ailleurs.
Oui, pardon, c'est de la flotte avec une fine pellicule de gras par-dessus qui est tout ce qu'on a lavé comme crème solaire sur les côtes espagnoles et italiennes
You.
et grecques. Et c'est quand même marrant parce qu'on se dit, il y a une réalité impermanente qui est, ouais, c'est de la flotte. Et il y a tout ce qu'on vient y coller par-dessus. Et c'est la même chose avec les technologies, quoi. Il y a une réalité impermanente de ce qu'est l'outil, sans vouloir toujours remettre le couvert sur le débat. Et puis il y a ce qu'on en fait, quoi. Et où deux personnes différentes avec le même outil vont parfois faire deux choses complètement différentes. On reste enfant de notre temps, de notre culture, de notre éducation, et ceci et ceci et cela. Et parfois, on a du mal à concevoir, et c'est pour ça que je citais son documentaire, parce que son documentaire nous permet de concevoir justement ce que les gens en face pensent. Nous, à Lyon, on comprend non seulement ce que les Guinéens qui sont venus à Lyon, sont implantés à Lyon et sont devenus lyonnais, comprennent, savent et voient, mais avec son documentaire, c'était le grand intérêt de sa démarche qui était de revenir en Guinée. On comprend, on voit, on sait ce que les gens en face comprennent, sachent et voient. Et je crois que c'est le truc qui nous manque et le truc qui est un peu compliqué à faire avec les technologies, notamment les technologies des réseaux sociaux. Être capable de se mettre de manière très littérale dans les baskets de quelqu'un d'autre. Et ça, je le vois quand je fais la semaine de la presse dans les collèges, dans les lycées, quoi. où les gamins, ils ont parfois du mal à se parler mutuellement parce que ce qui, pour nous, peut paraître évident comme voilà, le journal papier ou le journal télévisé de 20 heures comme expérience partagée, c'est-à-dire on est des centaines de milliers ou des millions à voir la même chose, à entendre la même chose et finalement à vivre la même réalité, eux l'ont pas du tout parce que ce sont des outils qu'ils n'utilisent pas et les outils qu'ils utilisent, qui sont les réseaux sociaux, sont très fortement algorithmisés. Et donc ils ont, alors qu'ils utilisent le même outil, ils sont confrontés à des faits différents, à des réalités différentes. Et alors qu'ils sont sur les mêmes plateformes, qu'ils sont censés être sur les mêmes réseaux, ils vivent dans des mondes complètement différents, avec des mots qui ont des significations différentes, avec des réalités qui ont des faits différents, et où c'est... Il nous manque finalement cette capacité d'empathie.
Oui.
Il faudrait presque que... Il y a un curseur, qu'on impose un curseur dans les algorithmes qui serait un curseur d'empathie, quoi, et qu'on puisse appuyer dessus, quoi.
Oui, parce que là, tu parlais du, quand tu étais à vélo, de ce sentiment justement d'être dans le groupe et d'être porté par le groupe au point que l'esprit peut se libérer. Et là, c'est exactement l'inverse, quoi. Ouais. T'es tout seul face à la machine. C'est un agent d'isolation extrêmement puissant, quoi. C'est, et enfin, plus que ça, parce que c'est pas juste une isolation qui serait quelque chose de passif. C'est quelque chose qui dresse les gens les uns contre les autres, les communautés les unes contre les autres. Parce que c'est que comme ça qu'on va justement gagner leur attention, parce que c'est juste que comme ça qu'on va les faire rester sur les plateformes et les faire consulter de plus en plus. C'est en ça que, enfin, il y a vraiment quelque chose de... Ouais, d'anti-humain, quoi, dans la manière... Je pense particulièrement aux réseaux sociaux, bien sûr, parce que c'est l'exemple le plus évident de cette présentation des algorithmes, de la manière dont ils présentent les choses selon les gens, selon les audiences. Mais ouais, c'est... plutôt gênant.
C'est très révélateur que tu aies utilisé le mot isolation plutôt que le mot isolement. Le réseau social qui te met dans une gaine.
Ouais, c'est ça, t'es dans ta petite cellule blanche, hein, carré. Cubique, pardon, pas carré. Je suis pas très bon en géométrie. Mais...